Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir, buon anno.
Buon anno,
Simone. Buon anno,
buon année. Ouais, bah,
Simone, oui, compris, il a passé les fêtes en Italie. Alors, l'avantage des fêtes en Italie, c'est qu'il y a des matchs. Mais le gros problème des fêtes en Italie, c'est pas les tonnes.
Ouais. Et c'est les bouffées dans les stades pour la presse. C'est trop riche.
Mais tu vois, en Italie, il y a plein de trucs vachement bien, mais il y a deux trucs que vous savez pas faire, c'est les gâteaux et les voitures. Parce que la Fiat Multipla et le Panettone. Excuse-moi,
mais ça dépend de où tu l'achètes.
Le problème, nous, attention, Daniel Riolo va contre-attaquer.
Oui, parce que le problème de la gastronomie en Italie, c'est qu'elle est tellement populaire qu'elle donne lieu à peu près à 80% d'imitations absolument nulles. C'est un peu comme je te l'ai toujours expliqué pour la pizza, qu'on croit manger régulièrement en France, mais qu'on mange très mauvaise dans à peu près 80% des établissements. Et on croit qu'on mange une pizza, alors qu'on mange de la merde. Et pour le Panettone, c'est à peu près pareil. Il y en a au supermarché à 2 euros et il y en a à 30 euros. Forcément, il va y avoir une différence.
Ah, bah, bien sûr.
Mais c'est comme si t'achètes ta baguette à l'Intermarché ou dans une bonne boulangerie, elle va avoir un goût différent et ce sera pareil pour le croissant.
Mais est-ce qu'on peut quand même ne pas aimer quelque chose qui coûte 30 euros?
Tu peux ne pas aimer le Panettone parce que tu peux juger que c'est
la pizza
le côté brioché. Oui, ben écoute, c'est comme les pâtes en Chine. Ils font pas mieux les pâtes qu'en Italie en Chine. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est pas un endroit où t'inventes quelque chose que ça se passe le mieux. Donc voilà. Et pour les voitures, excuse-moi, je crois là vraiment s'il y a un domaine dans lequel tu te plantes, c'est bien celui-là.
Il y en a quelques-unes qui sont pas mal aussi.
Il y a quelques marques dans ce pays, excuse-moi, qui.
Ouais, mais la caisse la plus moche de l'histoire, elle vient d'Italie quand même. Et c'est la Multipla.
Ouais, c'est vrai qu'elle est moche celle-là.
La Ford Ka était pas mal aussi.
Pas mal. Ouais. J'ai une autre qui était même pire de la Multipla, la Kubo.
Ah, on se souvient pas de celle-là.
Vraiment horrible.
C'était que en Italie.
J'avais dû une fois, c'était.
Tu sais pourquoi il y a le dégivrage arrière sur les Fiat? Pour avoir chaud aux mains quand tu pousses.
Après,
pardon, c'est une petite.
Après,
c'est nul.
Les Mégane ou les bagnoles comme ça, la grand public de chez Renault, si tu les trouves belles, tu les gardes.
Bon, Simone est là. Voilà, Fred Hermel, lui aussi a de magnifiques voitures, les Seat.
Ah, là, lui, il y a plus de mal. L'industrie en Espagne, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a.
Salut, Fredo. Marché.
Excuse-moi, il y a quand même beaucoup de voitures françaises qui sont fabriquées en Espagne.
Oui,
et
oui,
vous savez comment on appelle le Celta Vigo? Quand on habite à Vigo, quand on a un vrai supporter du Celta, on dit pas le Celta, on dit El Citroën. À cause de l'usine Citroën.
Il y a l'usine,
L'usine Citroën très importante qui produit,
C'est un peu le Sochaux, espagnol.
Exactement. Il y a Valladolid pour les Renault et il y a Vigo pour les Citroën. Et d'ailleurs, et vous vous souvenez à l'époque, le Celta Vigo, ils avaient le logo de Citroën sur leur maillot.
Tout à fait.
C'était sponsor maillot. Et hier, on a eu le droit à Bernabéu, à un match pas terrible, mais on a eu le droit à un roscon. Le roscon, c'est la galette des rois espagnols. C'est un étouffe chrétien, comme on dit chez nous.
Et Fred, puisque tu es là.
C'est meilleur que notre galette des rois.
Tu peux témoigner toi aussi qu'il y a un plat populaire espagnol qui dans 80% des cas est très dégueulasse.
Ah mais la paella, mais c'est terrible, c'est horrible.
La paella dans tous les lieux de vacances pourris, attrape couillon, on te file des barquettes de merde.
La
paella quand elle est bonne, et notamment Fred Hermel m'a emmené à Madrid une fois manger une excellente paella, je m'en souviens encore.
Non mais déjà la paella, ça ne peut être que très fin. La bonne paella, ce qui est bon dans la paella, c'est le brûlé entre le riz et le...
Mais attention, c'est le cas de tous les plats populaires.
Attends, le brûlé entre le riz et la
couscous.
Le couscous, 80% du temps, tu manges du pas bon.
Et comme un bourguignon, si tu le fais mal, il est dégueulasse. C'est pareil.
Ouais. Julien Laurent, c'est également parlant. Julien Laurent, sur les tranquilles avec
vous.
Au niveau de bouffe, on est tranquille avec Julien, je pense qu'il va pas trop la ramener. Salut Julien.
Bonsoir à tous, bonne année surtout.
Voilà. Bonne année.
Merci Julien, mais effectivement tu as été sobre, c'est ce qu'on attendait de toi.
Non mais on mange très bien à Londres, mais c'est très cher.
Alors.
Et c'est pas anglais.
C'est pas anglais, c'est ça.
Voilà. Les gars, on va démarrer quand même avec Julien parce que il y avait un match de cup avec un résultat étonnant ce soir. On a suivi ça tout à l'heure. Liverpool a été éliminé par Wolverhampton. C'est pas vraiment le résultat qu'on attendait, mais enfin, c'était apparemment une équipe bis de Liverpool, Julien.
Ouais, une équipe bis de Liverpool, effectivement. Jürgen Klopp avait beaucoup fait tourner après la défaite à Manchester City jeudi dernier, mais ça reste une défaite quand même au premier tour de cette. Enfin, c'est le troisième tour ici en Angleterre, le 32e de finale de la Cup. C'est une habitude pour Liverpool sur Jürgen Klopp. Hein. D'habitude, ils franchissent quand même ce premier tour là, et puis ils se font éliminer le tour prochain. Et ben là, ils ont perdu d'entrée avec une équipe très jeune. On a notamment vu Kyan Aouar, qui est leur défenseur central néerlandais, qui a 16 ans, qui est né en 2002. Et qui a fait ses débuts pour l'équipe première aujourd'hui. Il est rentré en jeu à la place de Dejan Lovren après 6 minutes de jeu, qui est un très très grand espoir. Jürgen Klopp l'aime beaucoup. Il y avait Mignolet dans les buts, il y avait effectivement beaucoup
Fabinho en défense centrale.
Voilà ça, il avait beaucoup fait tourner Sturridge et Origi en pointe par exemple, et avec Mané, Firmino et Salah sur le banc de touche. Salah et Firmino sont rentrés à 20 minutes de la fin du match. Trop tard pour changer la physionomie du match et le résultat du match. Donc c'est une déception pour Liverpool qui maintenant, quoi qu'il arrive, mais on s'y attendait aussi, va tout miser sur le championnat et la Ligue des Champions.
Alors, on va reparler Cup avec toi, mais t'as un avis évidemment, comme tous les lundis. Jingle, Julien Laurence.
My view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Conte, to create like De Bruyne, and to be Pogba on top of that. It can't be all of that.
Je reconnais ta petite pointe d'accent parisien quand même, quand je t'entends parler anglais, mais quelle
fluidité. Oh, c'est beau.
Quelle fluidité. Et ton avis concerne Manchester?
Oui, Manchester United, on avait beaucoup parlé au moment du départ de Mourinho, que c'était peut-être la pire nouvelle, la mauvaise nouvelle pour le PSG, parce qu'avec un nouvel entraîneur, un nouvel état d'esprit, une nouvelle attitude, une nouvelle dynamique, cette équipe de United pourrait poser beaucoup plus de soucis au PSG le mois prochain en Ligue des Champions. Que l'équipe qu'on avait l'habitude de voir sous Mourinho. Et effectivement, depuis l'arrivée de Solskjaer a pas eu le temps de changer beaucoup de choses, hein, depuis qu'il est arrivé à la fin du mois de décembre. Il y a des matchs tous les trois jours, ils se sont pas beaucoup entraînés, ils ont beaucoup récupéré, mais ce qu'il a changé, c'est l'état d'esprit du vestiaire, c'est avoir fait revenir les sourires sur les visages, avoir changé l'attitude, changé l'état d'esprit, changé la relation entre l'entraîneur et son vestiaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait beaucoup sous Mourinho, il y a pas de secret là-dedans, mais c'est surtout quelque chose qui était vraiment nécessaire à ce moment-là pour relancer cette équipe de Manchester United, pour relancer certains de ses joueurs comme Paul Pogba bien sûr, mais aussi un joueur comme Alexis Sanchez et d'autres qui avaient vraiment besoin de retrouver ce côté un peu plus paisible de relation entre un entraîneur et un vestiaire, et ce qui était le cas avec Solskjaer. Et je pense que c'est la pire chose qui pouvait arriver au PSG, c'est que justement Solskjaer rapporte ce bonheur un petit peu, cette insouciance que United et ses joueurs avaient perdu depuis le début de la saison sous Mourinho.
Bon, vous adhérez à cet avis de Julien?
Bah, nous on a parlé. Je pense que Jenny était pas là le soir. On l'a fait, mais on a Manchester United. Effectivement, bon, je les ai vus là, durant la période des fêtes et dans leur série de victoires. On a beaucoup dit effectivement que le changement d'entraîneur était peut-être une mauvaise nouvelle pour le PSG. Au final, à les regarder jouer et à regarder surtout ce qu'ils essayent de mettre en place, je suis pas sûr que ce soit que l'équipe soit totalement nouvelle. Elle a un meilleur état d'esprit, elle gagne des matchs, c'est sûr, mais je suis pas sûr que pour autant et fondamentalement elle soit plus inquiétante pour le PSG.
C'est surtout qu'une bonne nouvelle pour Manchester n'est pas forcément une mauvaise, enfin ne devient pas forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG. Il y a aussi des lacunes et une certaine lourdeur derrière au niveau de Manchester.
Le jeu moisi de Mourinho aurait presque pu être plus chiant au final.
À jouer. Ouais, oui, sauf que là, t'avais des joueurs qui n'étaient plus capables de s'investir suffisamment.
Oui, mais la façon dont ils ont planté la Juve et ce genre de trucs là.
Oui, mais pour ça, t'as besoin de joueurs qui croient et en veulent.
Il est possible aussi que la Ligue des Champions les ait motivés au-delà du dégoût pour l'entraîneur. Peut-être. Là, s'ils essayent de jouer en s'ouvrant avec leur défense, que je trouve faible,
il va y avoir de la place.
Ça peut être dangereux. Je pense que Manchester, évidemment, en Ligue des Champions, on sait, c'est quand même un grand club et tout, ils peuvent passer sur le PSG, bien sûr. Mais Manchester est malade plus en profondeur que uniquement à cause de Mourinho, et qu'ils auront besoin d'un autre entraîneur, de prendre des joueurs derrière, de revoir aussi leur ligne offensive où t'as beaucoup de mecs qui se ressemblent et où on n'arrive pas à déterminer qui est le vrai avant-centre de l'équipe, qui est le vrai meneur. Je trouve qu'il y a des soucis un peu plus profonds. Moi, je dirais.
Parce que maintenant, ils jouent vraiment en équipe.
Ça, l'état d'esprit, il est différent, ça, c'est sûr.
Et ça, je pense que c'est.
Non, mais ils sont tous libérés.
C'est un vrai avantage.
C'est ça, la différence.
Voilà, exactement.
Non, parce que l'après Mourinho, et moi je vais aussi parler de Mourinho tout à l'heure dans mon avis tranché, parce que en fait Carlo Ancelotti m'avait raconté quelques mois après son arrivée au Real qu'il n'avait jamais vu un vestiaire aussi remonté contre l'ancien entraîneur que lorsqu'il est arrivé juste derrière Mourinho. Et il gagne la Ligue des Champions cette année-là, le Real. C'est-à-dire que l'excès de motivation aussi pour dire, enfin le surplus de motivation pour dire le problème c'était l'entraîneur et on va te montrer que ça va beaucoup mieux sans toi, c'est quand même un atout énorme. Le Real Madrid était bien différent, et il n'y avait pas, il y a Bale qui est arrivé entre-temps, mais il n'y avait pas eu un changement énorme dans l'effectif, et des joueurs qui butaient tout le temps en Ligue des Champions, bon, ils butaient en demi-finale, mais enfin ils n'arrivaient pas jusqu'en finale, par le dégoût qu'ils avaient de Mourinho, avait provoqué qu'ils étaient dans une une motivation extrême. Et je me souviens que Carlo m'avait raconté qu'il y avait un match l'été contre Chelsea, le Chelsea de Mourinho. Vous savez, dans le truc américain, la Champions Cup.
Ah, si, si, ouais.
Ouais, tu vois, là, c'est ça. International Champions Cup. Et par exemple, Marcelo, Ancelotti avait prévu de le faire jouer. Il dit, bon, tu vas jouer que la première mi-temps et tout ça. Il fait, non. Tout le match. Et tous les mecs voulaient tout jouer tout le match contre Mourinho, ils avaient gagné 1-0. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il est tellement énervant, Mourinho, il provoque tellement de dégoût, et c'est dur d'utiliser ce mot-là, mais c'est vraiment ce qu'on a ressenti ici à Madrid, que les joueurs peuvent se surpasser pour leurs propres ambitions, mais aussi par dégoût de l'entraîneur.
Après, Fred, ça fera pas courir plus vite Lindelof, Shaw, Bailly, derrière,
le Real avait d'autres atouts, et après...
Ce sera pas facile, mais ça reste prenable.
Après, effectivement, c'est beaucoup mieux. Mais tu seras d'accord, Julien, quand même, il y a ce week-end un match important qui donnera des enseignements intéressants sur le vrai renouveau de Manchester, quand même.
On verra dimanche, effectivement, à Wembley.
Alors, quel heure le match contre Tottenham?
17h de chez toi, 16h de chez nous. C'est le grand match du week-end.
C'est le match qui va...
Non, 17h30, pardon. 16h30 pour nous, 17h30 pour toi. Ouais.
Vu que c'est la rentrée, tu voulais nous faire un petit bulletin de notes des vacances. Ça, d'habitude, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est plutôt pendant les vacances qu'on a les notes du trimestre. Alors, mention excellente. T'as mis pour qui pendant ces vacances-là?
Bah pour Manchester United, même si les adversaires sont plutôt abordables, comme on l'a dit, Cardiff, Huddersfield, Bournemouth et Newcastle, c'est quand même 4 victoires en 4 matchs. Tu rajoutes la victoire contre Reading, l'équipe de deuxième division en FA Cup ce week-end, ça fait 5 sur 5 pour Solskjaer. Alors bien sûr, contre des équipes de bas de tableau, ou en tout cas assez moyennes, ou en ce moment pas en très grande forme comme Bournemouth par exemple, mais il fallait quand même les gagner ces 5 matchs, il l'a fait, surtout les 4 en championnat, c'est important, ils prennent 12 points, c'est la seule équipe à avoir fait un sans faute avec que des victoires pendant la période des fêtes sur les 4 matchs donc qui se sont joués entre juste avant Noël et puis donc le premier de l'an ou juste après le premier de l'an. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pour la dynamique de l'équipe, la dynamique de victoire, la confiance et tout ça, c'est vraiment, c'était important. Après, on a mis mention très bien pour Liverpool et Tottenham avec 3 victoires et une défaite chacun. Bien sûr, la défaite pour Liverpool, c'est ce match incroyable contre Manchester City le 3 janvier, 2-1 à l'Etihad, même si j'ai trouvé qu'on avait beaucoup sous-estimé le but de Firmino. Alors certes, c'est un but qui leur apporte rien puisque ils perdent malgré tout, mais si tu re-regardes le but et si tu l'analyses bien, entre les changements d'aile de Fabinho, de Trent Alexander-Arnold, de Henderson et après encore le dernier qui va d'Alexander-Arnold vers Robertson, donc de l'arrière droit à l'arrière gauche qui se retrouve en passant décisif après pour Firmino, c'est un super but, j'ai trouvé.
Oui,
et voilà, Liverpool, malgré cette défaite, conserve ses 4 points d'avance au championnat. Et ça reste quand même une bonne période pour eux, cette période de Noël, parce qu'ils ont quand même pris, par exemple, 3 points de plus que City, sur cette période-là, puisque City, donc, on leur a mis une mention passable. 2 victoires, 2 défaites, donc, contre Crystal Palace à domicile. Et puis, contre Leicester.
Mais Julien,
contre
tu seras
Leicester
d'accord? Dans la fameuse phrase qui entretient la légende qu'on perde le titre pendant les fêtes, même si on le gagne pas. En gagnant ce match, Manchester City ne l'a pas complètement perdu le titre.
T'as raison, effectivement. Un match nul, je pense que c'était
alors
quasiment
qu'ils étaient
terminé
partis
pour eux.
Avec leurs 2 défaites là, dans la période des fêtes là, inattendue là, pour justement qu'on dise bon bah ils l'ont perdu le titre pendant les fêtes. Mais ce match-là finalement a fait que ils sont encore en vie.
4 points ou 10 points, ouais. C'est.
Ça n'a rien à voir. Ouais. Et un match encore une fois qui se joue sur.
Même un match nul, c'était peut-être le signe que pendant ces fêtes, City aurait perdu le titre. Mais là, en gagnant,
avec toi.
Ça a changé. Ouais,
ça a changé effectivement.
Alors, je reviens sur la cup parce que bon, t'as vu week-end de cup comme nous, week-end de Coupe de France, donc en Angleterre chez toi là. Il y a toujours quelques histoires sympas, donc je crois que t'en as sélectionné une ou deux là.
Ouais, une seule. Donc six clubs de première ligue quand même ont été éliminés lors de ce premier tour. Certaines, comme on l'a vu ce soir, Liverpool contre d'autres équipes de première ligue. Bon, ça arrive, mais on a eu la magie de la cup, comme ils disent ici aussi en Angleterre, des éliminations beaucoup plus retentissantes, notamment celle de Fulham à domicile contre le club d'Oldham qui joue en Ligue 2 ici, donc c'est la 4e division, c'est le National 2 pour vous. Et l'histoire un peu marrante, c'est qu'ils ont un entraîneur intérimaire. à Oldham parce qu'ils avaient très mal commencé la saison. Et donc c'est Pete Wild qui était l'ancien responsable du centre de formation qui donc s'est retrouvé entraîneur intérimaire il y a de ça 10 jours. Mais le truc c'est que Pete Wild c'est aussi un très grand supporter d'Oldham, lui et sa famille depuis tout petit. Il aime Oldham, il est supporter, ils ont des abonnements à l'année au stade. Et donc quand il était encore responsable du centre de formation, il avait prévu de se rendre à Fulham au moment du tirage. Il disait bah ouais, avec la famille on va aller à Fulham. Donc ils ont pris leur billet de train, ils ont acheté leur billet au stade comme tous les supporters d'Oldham, les 3500 supporters qui se sont rendus à Craven Cottage samedi. Et donc il avait prévu d'y aller en train, en famille, et d'aller voir son match tranquille avec la tribune, en tribune avec les supporters visiteurs. Sauf que depuis donc il a été intronisé entraîneur intérimaire, il a gagné ses deux premiers matchs de championnat en Ligue 2 avec Oldham et il s'est retrouvé sur le banc de touche à Craven Cottage contre Fulham et son équipe a gagné 2-1. Et donc comme il a raconté après, j'aurais dû être dans les tribunes, j'étais sur le banc, j'avais une meilleure vue et en plus on a gagné, donc c'était plutôt une bonne journée pour lui et pour sa famille quand même.
Ah bah tu m'étonnes, histoire étonnante effectivement. Julien,
ils sont bien Fulham cette année.
Reste avec nous. Oui, Fulham effectivement.
C'est compliqué, ouais.
Ouais. Ça va pas fort. Julien reste avec nous. Dans quelques instants, on va reparler de Mourinho avec Fred Hermel. Et puis, je voulais quand même vous faire partager le choix de chaussures du soir de Pierre Ducrot, le chevalier du Havre, qui nous a sorti un cuir bleu de belle facture.
Ah, c'est pas tant le cuir bleu, il y a la pointe aussi.
Ah, puis la pointe.
Le soulier ouais. pointu. Ouais,
oh. Le soulier pointu en cuir bleu.
Pas complètement.
On vous a mis ça sur le compte Twitter de l'After avec cette question. Vous osez ou vous osez pas? Plus de 1000 votes d'ores et déjà.
Alors, si je peux me permettre, la chaussure bleue est sortie de son contexte. Il y a un petit rappel de ceinture bleue, de cravate bleue également. Mais bon,
il défend le produit.
Ça, je vous laisse. Je vous laisse juge du contexte dans lequel vous avez mis ça, mais c'est pas très grave. La bave de crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis.
Ah oui, on a eu la côte de bœuf en or de Ribéry, on a désormais les pompes bleues de Pierre Ducrot.
Je fais ce que je veux avec ma tête.
Ah oui, c'est vrai.
Connerie pour part, ça m'a discuté sur ma chaussure bleue, tu vois.
Et alors attention, le sondage, 1080.
Plus cher que ces lunettes.
1093 votes.
Non,
pas quand même.
Non.
1093 votes entre le j'ose et j'ose pas, et figurez-vous qu'à 59%, c'est le j'ose qui arrive en tête.
Merci. Les auditeurs de l'After savent, tu veux dire.
Ah, Pierre Ducrot est un prescripteur, il fait la mode. L'Espagne et l'Italie arrivent dans quelques instants.
Bon, Simone,
dans l'After.
Qu'est-ce qu'il faut pas qu'on subisse?
Presque italienne.
Jusqu'à minuit, nous sommes là avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, avec les drôles de dames. Alors pas de David Lorto, hein, il hiberne, hein, comme d'habitude. Il a pris ses Birkenstock, il est parti. Il est parti au soleil. On sait pas trop où. Bon. En stage avec Düsseldorf et le FC Cologne. Voilà. On a Julien Laurence qui est là, on a Fred Hermel bien sûr, on a Simone Rovera. Et attention Fred Hermel n'est fait que d'avis, hein, donc du matin au soir, il a des avis, surtout, souvent bien troussés, comme vous allez le constater tout de suite après ce jingle Hermel.
Un frisson, c'est un calambre, c'est... Tu vois, c'est la différence entre les gens qui pratiquent et ceux qui regardent sous Google Crad. Google Crad. Alors, il faut expliquer que c'était la finale de la Copa Libertadores à Bernabéu. Une soirée un peu spéciale.
Sur Google Crad. Donc.
Et tout ça pour Google se rendre crad. Compte que finalement... C'était pas un frisson.
Le match était crade.
Oui, puis que c'était pas un frisson. Enfin, qu'on disait pas comme ça, finalement.
Mais c'est pas comme ça, exactement.
Non. Bon, alors, tu veux nous parler de qui? Bah, comme par hasard, de Mourinho, qui décidément revient dans toutes les discussions ce soir.
Transition.
Mais ouais, mais moi, je dis pitié, pas Mourinho, quoi. Voilà, c'est bon.
Réal, bien sûr.
Pitié, pas Mourinho au Real, bien entendu, parce que là, c'est la crise grave au Real. On se dirige vers une saison catastrophique. Et alors, n'interprétez pas mal. J'y pensais, mais j'ose pas le dire, mais je vais le dire quand même. Quand il y a de la sécurité, il y a les gens qui votent à droite. Vous voyez un peu le réflexe comme ça. Et ben, le Real Madrid, quand ça va pas, ben on vote vers la main droite très dure d'un entraîneur à poigne.
La rigueur.
Qu'on suppose la rigueur. Voilà, la rigueur. Tu vois, c'est le tournant de la rigueur. Voilà, c'est fini la relance keynésienne, allez, la rigueur, avec les contrôles, tout ça. Et là, moi, ce que je vois venir là, mais gros, c'est une forte, et ça commence déjà, c'est en disant, c'est fainéant de footballeur, il faudrait un entraîneur qui les fasse bosser, nana, c'est cette petite musique qui commence à s'entendre chez les supporters. Et n'oubliez pas, les amis, et ceux qui ne savent pas, je vous l'annonce, que le Real Madrid, tout comme le Barça, qui sont des clubs qui appartiennent à leurs socios, les socios, ce sont les électeurs, et donc les dirigeants font régulièrement des sondages, avec des vrais instituts de sondage auprès des... Voilà. Et si d'aventure, dans les prochaines semaines, ça se continue à se passer très très mal, comme ça devrait a priori être le cas, eh ben, là, il est évident que le nom de Mourinho serait proposé dans les sondages. Que pensez-vous d'un retour de Mourinho? Et si d'aventure, il y a une majorité, pas une majorité, en tout cas, une base intéressante, de supporters, et je sais qu'elle existe, Moi, je pense qu'aujourd'hui,
ça ressemble
un quart,
à un référendum, ça. Hein.
Ben ouais, voilà, ouais. Rick, comme on dit là, tu sais.
Rick madrilène.
Les fameuses, grandes idées.
Et sincèrement, quand ça va mal comme ça, les gens ont envie d'un... Voilà, un peu de dureté. Et comme Mourinho a gardé 25% à 30% des supporters totalement fous de lui, c'est-à-dire il y a une sorte, il est le gourou d'une secte mouriniste, hein, qu'on appelle comme ça, le schmoulinista.
À combien tu l'évalues, importante ou pas?
25 à 30% des gens encore aujourd'hui sont considèrent que Mourinho est l'un des meilleurs.
Ah ouais. Avec 25 à 30% de le reprendre direct.
Il en a envoûté beaucoup quand même.
Ah mais oui, complètement. Mais ça reste.
C'est quand même curieux parce que c'est après son départ qu'ils ont tout gagné.
Oui, mais il y a des gens qui aimaient son côté j'attaque les arbitres, j'attaque les adversaires. Vois, il y a ce côté-là, le show Mourinho, etc. Voilà, parce que en fait, il y a des gens.
Un doigt dans l'œil d'entraîneur du Barça. Tout
voilà, mais bah oui, mais ça, il y a même des gens qui l'ont justifié quand même. C'est quand même très terrible. Et puis, Florentino Pérez aime beaucoup Mourinho. Et Mourinho, contrairement à ce qu'on croit, est parti en très mauvais termes avec les joueurs, en mauvais termes avec beaucoup de journalistes, dont moi.
Ouais, mais sauf
en
que mauvais beaucoup termes, de joueurs sont encore là.
Ouais, ouais, je termine et je réponds à ta question parce que je m'attendais à cette question, elle est tout à fait raisonnable et légitime. Mais Florentino Pérez continue de parler en privé de Mourinho comme l'un des meilleurs entraîneurs qu'il ait jamais eu au Real Madrid. Et donc,
alors ça,
vous allez me dire, oui, mais les joueurs, ouais, bravo, mais sauf combien de joueurs vont rester en fin de saison? Et Marcelo qui s'entendait pas du tout avec Mourinho, pensait qu'il serait encore là la saison prochaine. Je suis pas sûr. Là aujourd'hui, il y a tellement de, c'est-à-dire la révolution dans le vestiaire, elle peut être tellement énorme l'été prochain que je pense que le président va pas consulter les joueurs pour savoir qui ils veulent comme entraîneur. Hein, ça, je peux vous l'assurer. Hein. Donc.
Mais quand tu parles des joueurs et ceux qui voudraient venir, ceux que le Real voudrait acheter,
tu crois qu'ils vont vouloir venir bosser avec lui?
Tu crois que Hazard va vouloir travailler avec Mourinho? Ouais, ouais. Tu crois que Neymar va vouloir travailler avec Mourinho?
Exactement. Ça, c'est la deuxième.
Avec lui.
Ouais. Ouais. Mais moi, je vous parle du côté Real et la remarque. La remarque de Julien.
Qui continue à s'habiller et se déshabiller devant le poster de Mourinho.
Ouais, mais vous savez le problème. N'oubliez pas une chose. La question de Julien.
Je voudrais savoir tes posters, Daniel.
J'ai pas de posters. J'ai horreur des glorifications comme ça, moi.
Ah bon?
Non, Daniel, il a un poster de lui-même.
Non.
Ce que dit Julien est très intéressant. Ce que dit Julien est très intéressant. Sauf que de joueur, etc. Ce sont les socios, ce sont les gens. Et si la vie est favorable pour un retour de Mourinho, voilà. Moi, je pense qu'il y a d'autres gars qui sont, mais ils sont pas non plus extraordinaires hein, sur le marché quoi. Conte. Après, il y a Pochettino. Pochettino, c'est un vieux projet madrilène. Il plaît pas mal du côté du Real. Il connaît la Liga.
Oui, mais attends, il y a quand même élément. Il y a quand même un contre-pouvoir que tu connais bien, Fred, puisque tu l'incarnes. C'est la presse. Et si la presse madrilène est vent debout contre Mourinho, est-ce que malgré tout, Florentino Pérez peut se dire « Je m'en fous de leur opinion à cela, je le prends quand même ».
Bah, le problème, c'est qu'il y a des groupies de Mourinho dans la presse. 25 à 30% des journalistes qui écrivent sur le Real sont des groupies de Mourinho. Il reste. Non, mais il a ce côté envoûtant.
Ah oui, regarde Simone. Il est envoûté. Depuis 10 ans.
Moi, je reconnais tous les travaux qu'il a fait et les bons résultats qu'il a eu.
T'es envoûté.
Mais la merde, il a fait deux demi-finales.
Non, mais c'est curieux d'effacer la merde et de garder le bon.
Tu peux
avoir un regard et voir qu'il a commis une quantité d'erreurs énormes ces dernières années, qu'il y a un tas de joueurs qui veulent plus bosser avec lui, qu'il a beaucoup régressé même dans sa gestion de vestiaire. Il faut être un peu lucide, c'est pas parce que le mec il y a 8 ans il t'a fait triper que tu dois rester bloqué
Daniel.
Au-delà des choses.
Non, mais moi je l'ai admiré.
Mais bien sûr, mais moi je parle pas de son jeu. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui au Real Madrid? Je te l'ai dit et Fred l'a expliqué. C'est plus simple de faire les ménages dans ton vestiaire, c'est tu dis.
Voilà.
C'est Mourinho qui a plus envie de te voir. C'est pas Florentino qui va voir un joueur dire je te veux plus.
Voilà.
Non, c'est Mourinho qui te veut pas. Comme a fait avec Casillas et des autres. Qu'on peut dire les moyennes pour arriver à ce qu'il veut vraiment Florentino, c'est-à-dire de faire tabula rasa et partir avec zéro.
J'attends de voir.
C'est dangereux quand même.
Les entraîneurs, si t'arrives le Real Madrid, t'es un joueur d'une équipe important en Angleterre ou en Allemagne, t'es dit voilà, ton salaire à 12-15 millions par an, tu viens
me dire oui,
il va pas pouvoir le faire.
Sauf que le joueur qui intéresse le Real, Simone, il intéresse d'autres.
club du même calibre et peut-être que
ouais, mais le reste, c'est le Real.
Des joueurs allaient signer un Roussy pour 30 millions, des joueurs signés dans des clubs.
Le joueur qui va en Russie.
Là, il faut qu'il en prenne 5 ou 6 des très bons.
Simonet, tu sais très bien.
Simonet,
c'est très bien.
Aujourd'hui, tu peux pas prendre 5 à 100 millions. C'est fini, cette histoire-là. Tu vas prendre un et les autres, tu prends des bons joueurs.
Les joueurs dont tu parles qui partent à 30 millions en Russie, c'est pas les joueurs qui signent au Real, au Barça ou c'est pas les mêmes. Non, on est d'accord.
C'est un joueur. Alors, qui est au Real, attendez, qui est au Barça, simplement, est-ce que je vous dis, je ne vous dis pas que Mourinho, il faut pas m'interpréter, va venir au Real. Je dis qu'il y a cette petite musique, moi, qui m'inquiète. Voilà, parce que ça fait longtemps que je suis ici.
Beaucoup de mal à y croire.
Je connais la chanson. Mais tout va dépendre de ce qui va se passer, parce que cette saison, elle peut être catastrophique, et plus elle va être catastrophique, plus l'envie d'avoir un type dur dans le vestiaire va être exprimée par les socios, alors, donc par le président.
Ou alors c'est que Mourinho va changer un petit peu et va comprendre qu'il, qu'il peut plus continuer
ça. Ça fait 10 ans,
dur, dur, dur.
Il va changer, il change jamais.
C'est quelqu'un de très intelligent. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'il change aussi un peu.
T'as jamais essayé ça sur dans ton assiette. Florentino sait qu'est-ce que c'est Mourinho. Et si tu arrives à 3 semaines...
Justement, tu manges pas deux fois le
il adore.
Mais si tu arrives 3 semaines avant l'Ajax dans une situation avec encore des défaites, tu commences à avoir peur de te faire éliminer en 8e et tu penses pire des choses.
On va pas le prendre là maintenant de toute façon.
Non, c'est pour le mois de juin. Hein.
Non, c'est pas maintenant.
Là, on parle bien entendu pour le mois de juin. Ah,
Simone, il est en transe, il entend Mourinho, il fait des sauts de
carton
sur sa chaise, il en peut plus.
Il en peut plus. Il le voudrait nous expliquer, Fred, que s'il y a encore deux défaites, ils vont partir avec les sondages. Tu penses que s'il y a encore deux défaites au mois de janvier? Quand tu approches la Ligue des Champions en février, tu attends de voir qu'est-ce qui se passe.
Là, je pense que Solari va jusqu'au bout
aujourd'hui.
Là. Ouais.
T'es cinquième.
Non, mais tu vas prendre, mais tu prends qui là? C'est ça le problème. Solari rend service jusqu'à la fin de saison.
Donc, mais Mourinho est libre dès maintenant.
Bon, pour finir sur Mourinho.
Non, mais Mourinho va pas venir maintenant.
J'ai quand même quelques réactions. J'ai Rome 1 qui me dit, alors ok, il y a encore des Mourinho à Madrid, mais reste-t-il des faubéristes?
Bah ben, moi oui, parce que c'était un bon mec.
Voilà. Ouais, exactement. Alors, tu voulais aussi qu'on revienne, parce qu'on en a parlé un peu hier soir, le match Séville-Atlético, mais tu voulais qu'on y revienne ce soir, notamment pour parler d'un joueur français qu'on n'a pas évoqué hier.
Non, mais c'est, pour moi, ça a été peut-être le meilleur joueur de ce magnifique match. Je ne sais pas si vous avez vu ce Séville Atlético qui est d'un niveau extraordinaire avec une mi-temps de chaque côté. La première pour les Sévillans, la deuxième pour les Atléticos. Et puis, il y a Joris Niagnon, hein, l'ancien joueur de Rennes, qui a été impressionnant.
C'est-à-dire, comment dit-on Niagnon en espagnol?
Gnagnon.
Gnagnon.
Mais c'est difficile à prononcer pour un espagnol. C'est quelqu'un qui, bon, comme vous savez, qui est arrivé cet été, qui a pas une expérience incroyable, et il a réalisé tout simplement son meilleur match sous le maillot sévillan, et c'était un match au sommet de la Liga. C'était l'une des plus belles affiches, sinon la plus belle affiche du football européen ce week-end. Et l'aplomb qu'il a eu, il a réussi à énerver Griezmann, c'est-à-dire qu'il lui a collé au basque pendant tout le match, et à un moment, Griezmann était tellement énervé qu'il lui a mis un coup de coude, et qu'il s'est pris un jaune. Donc, il s'est même écrit une belle occasion en fin de rencontre. C'est quelqu'un qui, alors vous savez, Séville joue souvent avec une défense à 3, là il était côté droit de cette défense à 3, mais il montait souvent, il faisait un gros travail de récupération au milieu de terrain, etc. J'ai trouvé que ce jeune joueur avait un aplomb énorme et beaucoup de culot. Et en même temps, il a eu ce culot dans le match, tout en jouant simple et propre. Voilà, exactement ce que lui demande son entraîneur.
Fred, donc, c'est un joueur qui va assurément rester à Séville là, ou parce qu'il a très très peu joué.
Une
défense qui est souvent à 3, il a peu joué quand même, alors que ça te laisse une place de plus que dans une défense avec deux axios uniquement.
Ouais. Alors, est-ce que Pierre, il veut le voir à l'OM,
c'est
ça?
Non, c'est pas que je veux, c'est que je disais justement, une idée, s'il y avait un prêt de ce garçon-là, ce serait une très bonne idée pour l'OM, quoi.
Mais sauf que là,
on parle pas de la même chose.
Il avait montré qu'il est très très utile. Pour moi, il était le meilleur joueur de Séville hier, voire du match hier. Donc,
En 6 mois, il a joué quoi? 3, 4 matchs titulaires?
Ah, il a joué très très peu, quasiment pas. Là, il a profité de blessures, de retour de blessures, etc. Sauf que c'est la première fois que je pouvais le voir dans un match très important jouer 90 minutes. Il sort blessé à la 90e et donc il joue 90 minutes. Mais moi, il m'a assez impressionné pour un type de 21 ans qui arrive dans un championnat quand même largement supérieur à ce qu'est la Ligue 1. Je l'ai trouvé magnifique.
Il est en train d'apprendre. Il a pas d'adaptation et il va peut-être s'imposer.
On va passer à l'Italie dans quelques instants. Juste deux petites infos après avoir parlé de Niagnon. Piqué, il fait plein de choses que le foot, vous le savez. Alors là, il a racheté un club en Andorre.
Ouais.
Donc le FC Andorra.
Oui. Ouais, en fait, il joue dans le championnat catalan, régional catalan, en fait. C'est pour ça.
D'accord.
Et il veut les clubs d'Andorre jouent en Catalogne.
Et il veut que Messi, devienne, rentre au capital. Voilà. Donc, il fait les affaires, hein. Il met ses coéquipiers dedans.
Ah, bah oui, ça, oui.
Tranquillos. Et puis, alors, Wayne Rooney, lui, il fait pas les affaires. Il s'est fait, on l'a appris là, il s'est fait choper à l'aéroport de Washington, c'est qui joue là-bas, pour ivresse et injure. Donc, alors, il avait déjà eu son permis retiré en Angleterre, hein, il y a quelques temps, Wayne Rooney. Mais là, il est arrivé bourré à l'aéroport, en fait, Julien.
Donc, ça, voilà, il a pas insulté tout le monde, mais c'est voilà, c'est ce que les Anglais font habituellement, de toute façon. Hein. Mais il rentrait, il est allé voir une course de Formule 1 électrique, là, c'est ça, aux Émirats, quelque part aux Émirats, et donc en pleine saison. Hein. Mmh. Il rentrait à Washington, effectivement, il était un petit peu aviné, il a un petit peu insulté tout le monde, et donc il s'est fait arrêter, il est parti en garde à vue, et puis il est ressorti après avoir payé sa caution.
L'amende
du bon Wayne Rooney, quoi, hein, du Wayne Rooney dont on a l'habitude, voilà.
Bon, très bien. L'amende $25, c'est pas très cher aux États-Unis.
Hein,
c'est...
$25. Ouais, c'était plutôt cool, ouais.
Ouais. C'est la loi, quoi.
Bon, autant rien mettre, quoi.
Oui, surtout qu'il a son propre avion qui vaut plusieurs millions d'euros, Wayne Rooney, donc tu veux les $25, bon. Ouais. Allez, dans quelques instants, l'Italie au programme. Bougez pas, l'after revient tout de suite. Là, Pierre Ducrot et ses chaussures à la Duguay-Clin, Daniel Riolo et ses panettones, sans oublier Julien Laurence, Fred Hermel et Simone Rovera. Juste avant que tu parles d'Italie, sachez qu'on connaîtra demain le pays qui accueillera la CAN. Vous savez que ça devait être au Cameroun en juin. Et ce sera soit en Égypte, soit en Afrique du Sud. Ce sera décidé demain, lors du congrès de la CAF. Donc voilà, je vous donne cette petite info. Je sais qu'il y a pas mal de supporters des équipes africaines qui écoutent l'after. Alors, t'as fait comme Julien, t'as passé les fêtes en Italie. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a les matchs un peu comme en Angleterre maintenant, hein, pendant les fêtes en Italie.
Bon. Un peu moins quand même. Hein.
Un peu moins, mais c'est, t'avais des journées, donc t'avais pas les matchs chaque jour, donc t'avais tous les jours, t'avais pas tous les jours un match, mais t'avais tous les matchs dans une journée. Mais ça a été une nouveauté très intéressante, et ça a été... Bon, bien sûr, il y a eu des épisodes qui ont effacé un peu les souvenirs de cette belle journée de foot, ce qui se passait pendant l'Internaples. Mais sinon, pour un niveau de résultat de rester...
On va parler jeudi de ça.
Oui, Daniel me coupe l'herbe sous le pied. Ah. Il y a eu un documentaire sur Canal hier. Il s'est passé ça pendant les fêtes. On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans l'after. Donc nous, on va y revenir jeudi.
On aime bien avoir le temps et prendre son...
On va monter un petit dossier.
Notre temps. Donc, jeudi, on va parler
sur
de
les
ça.
Affaires de racisme en Italie, notamment.
J'étais à San Siro maintenant, Inter Napoli, et c'est vrai que c'était impossible à ne pas entendre les cris.
Oui, j'imagine, ouais.
C'était incroyable.
Oui, même Salvini s'en est mêlé aujourd'hui d'ailleurs. Mais on y reviendra jeudi. Ouais. Simone, n'oublie pas que tu as un jingle toi aussi.
Là arrive Naples et Lazio, ils se rendent compte que non, hein, ça fonctionne pas, j'ai démission.
Elle est dans la merde.
Je démissionne. Elle va dans les vestiaires, elle dit au joueur, elle dit bah écoutez,
j'ai démissionné. On est méchants, mon Simone.
Mais on se souvient plus qui devait démissionner.
Comment on dit, Simone? Moi je te fais réviser à chaque fois.
Je démissionne.
C'est plus qui devait. Et comment il s'appelle l'ancien entraîneur du Real que j'aime beaucoup?
Zidane.
Ah, c'est bien, t'as progressé.
Ah, il a progressé. J'ai fait des cours, là, pendant les vacances.
Il est avec les Z, hein.
Répété.
Ah non, il l'appelait Zidane avant.
Zidane.
J'ai dit Zizou, et bon, et c'est,
Tout ça passe, ouais.
C'est plus simple.
Alors, donc, t'as fait ton petit bulletin de notes, toi aussi.
Oui, parce que, c'est un peu, on a joué pendant les fêtes, et là, on attendait jouer la coupe, la CAP, la Coupe d'Italie, ces week-ends, donc on est en période de transition, et j'ai fait un peu les tops et les flops de cette première partie, et je ne peux pas que commencer avec les tops des tops, qui est la Juve. À niveau d'équipe, des clubs général, parce que au-delà de ces résultats, 17 victoires, de matchs nuls, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur avec Cristiano.
Et là, c'est même plus un gouffre, là. Ça ressemble au PSG en Ligue 1, là.
C'est domination. Énorme. Oui, c'est une domination totale qui met presque fin à chaque début de saison. Il y a presque plus de débats. Pour les championnats. Moi, je me rappelle l'été où arrive à Paris Neymar et Mbappé, les championnats se terminent avec l'arrivée de Neymar ou peut-être avec celui de Mbappé. Là, c'est terminé avec l'arrivée de Cristiano. C'était évident qu'il n'y avait pas débat, mais au-delà d'être en tête au classement, au-delà d'être première, la Juve a tout bien fait en championnat. En Ligue des Champions, on reverra. Bon, elle a gagné son groupe, pas extraordinaire dans certains matchs. Mais toutes les opérations
même en mercato de cet été, au final, on était gagnant de la Juve.
Tout marche parfaitement.
Ouais. Au-delà de Cristiano, t'as récupéré Cancelo, qui était très bon à l'Inter, devient les meilleurs latéral droit du championnat italien. T'as lancé Betancourt, qui se passe hyper bien au milieu de terrain. T'as récupéré Emre Can.
J'adore Betancourt.
Et qui est considéré aujourd'hui un des joueurs de l'avenir. T'as récupéré Emre Can gratuitement, qui rentre dans la rotation gratuitement. Après, ils ont payé 16 millions de commissions. Quand on parle de joueurs qui arrivent gratuitement, c'est jamais gratuit. Donc, là, la Juve, comme elle est cotée en bourse, publie tout ce qu'elle paye aux agents, aux intermédiaires. 16 millions. Quand même, c'est pas cher pour un joueur de ce niveau, mais quand
c'est
même.
C'est bien quand c'est clair comme ça.
Hein. C'est une belle commission quand même. Hein.
Bah, mais en théorie. Non,
quand on sait même ça, quoi, c'est bien.
Ouais, ouais.
En théorie, la réforme que j'ai vue en Italie pour les agents qui devraient passer, ça obligera les clubs à dire combien ils vont payer en commission à chaque agent. Pour chaque opération mercato. Ça pourrait changer beaucoup des choses. Mais encore, je vais plus loin. La Juve a vendu Higuain. Qui à Milan n'a pas été extraordinaire, a vendu Caldara, qui n'a jamais joué presque parce qu'il a eu des blessures, a joué un match. Il a récupéré Bonucci qui s'est intégré à nouveau à la perfection.
Le retour de Bonucci, c'est quand même incroyable.
Donc, tu ne peux pas considérer que la Juve a tout fait à la perfection du côté économique, du côté sportif. S'il y a un top club cette année, dans cette première
partie. Eux, vraiment, saison, maintenant, on a le sentiment que. Comment dire, l'optimisation de tout ça, ça doit être la Ligue des Champions.
Et quand tu vois.
La fin du parcours avec, sur ces dernières années, les deux finales perdues, et chaque année tu progresses, tu travailles de mieux en mieux, chaque année quand tu prends des mecs, tout ce que tu viens de dire, tu dis si ça se termine pas par une Ligue des Champions, et on sait à quel point c'est compliqué vu la concurrence.
Bien sûr.
Mais on a le sentiment que toute la progression, et si jamais ça arrivait.
Ce serait le parcours parfait.
Ouais, parce que tu sais, ce serait genre.
C'est la récompense. C'est pas ta réussite en un an.
T'as tellement bien travaillé, ouais. C'est tellement logique que ça te revienne à toi.
Mais
tu
encore
vois.
Plus, si tu regardes qu'en 2006, t'étais en série B. Donc, c'est un parcours en rapport aux autres grands clubs d'Europe.
Là, ça date déjà, mais tout ce qui a été fait là, moi, même simplement sur les cinq dernières années,
ouais.
T'as quand même fait deux finales. À chaque fois, t'as eu le sentiment que tu prenais les bons mecs au bon endroit, que tu faisais tout comme il faut. S'il y a cette concrétisation là, voilà, t'as le sentiment que les mecs pourraient se regarder dans le bureau et dire, on a quand même bien bossé.
On a bien bossé
mecs,
quand même. Quoi.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais. J'ai parlé de top, je parle de flop aussi. À mon avis, même si les classements est plutôt bon, je mets la Roma. Parce que la Roma,
la Roma c'est un flop vraiment.
Accéléré.
C'est ce qu'il dit.
Ça.
Non mais il dit même si le
oui, mais les classements.
Non il y a même pas.
Même, il a deux points de la Lazio à la quatrième place peut arriver quatrième peut terminer et encore en Ligue des Champions un huitième
ah
de
oui,
finale.
Ah oui c'est vrai que la quatrième elle est directe.
Impossible.
Oui pardon.
T'as un huitième de finale qui est pas impossible face au Porto donc tu peux retrouver en mars à dire waouh ouais, mais on est là. Mais aujourd'hui quand tu as misé sur une transition avec des jeunes avec les départs de certains joueurs cadres Nainggolan et Strootman qui sont peut-être les deux plus grands flops du mercato de l'Inter et de Marseille. Donc, t'as rien.
Nainggolan à l'Inter, c'est, je sais pas si t'as déjà parlé de la sortie du frère de Nainggolan qui dit mon frère est en train de foutre sa vie en l'air et tout. C'est
mais après,
costaud le gars. Il est en train de foutre sa carrière en l'air.
Nainggolan,
la carrière et la vie, c'est pas encore pareil.
Il est tendu. Il sort tout le temps, il picole.
Cet hiver, c'est passé plein des choses avec Nainggolan. Les retards à l'entraînement, il était mis à l'écart.
On l'avait dit l'été dernier. Les boîtes à Milan, c'est plus facile d'y aller que dans les boîtes à Rome et tout. C'était pas une destination pour lui.
Il les a connues très bien, les boîtes des Milan.
C'est plus discret Milan que Rome, donc forcément.
La Roma, quand même. Reste dépendant de l'état des formes des trois joueurs qui sont Kolarov, De Rossi et Dzeko. Donc pour être une équipe qui cherchait une transition, on est misé sur les jeunes ne sont pas encore au rendez-vous. Bien sûr, on verra en deuxième partie des saisons. T'es arrivé à fragiliser Di Francesco qui était l'entraîneur de la demi-finale, de la remontada. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui chaque semaine après une défaite sur la première partie de saison était mis en danger. Et donc, je trouve que la Roma aurait pu mieux travailler dans l'ambiance à Roma, c'est très compliqué, bien sûr. Il n'y a jamais de tranquillité. Et moi, je trouve qu'à niveau des joueurs, ça reste une équipe qui a d'énormes potentiels, des très bons joueurs. Et je trouve que Kolarov, ça reste aujourd'hui, même avec son âge, les meilleurs latérales gauche italiens que je mettrais dans mon top 11. Et les jeunes Zaniolo va être une des meilleures milieux de l'Italie dans les prochaines années. Ces joueurs qu'on rappelle, elle a débuté sa carrière pro en Ligue des Champions face au Real Madrid au Bernabeu à 19 ans sans avoir jamais joué un match en Serie A et sans avoir jamais joué un match en Serie A, était déjà sélectionné par Mancini. Donc, vraiment un prédestiné. top joueur.
Ah.
Et là, j'appelle aussi les larmes de Fred Hermel, parce que c'est Cristiano. Au-delà de ses buts, 14 en Serie A, ce qu'il a fait, pour l'avoir vu jouer avec la Juve au Juventus Stadium cette semaine pendant les fêtes, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, on les connaît, on l'a vu, on l'a déjà vu.
T'as l'impression qu'il est là depuis.
Moi, j'ai l'impression qu'il est là depuis des années, des saisons. Et j'ai l'impression que dès qu'il fait comprendre à ses joueurs, bon, là, on commence parce que j'ai envie de gagner. Il t'échange l'équipe sur le terrain pendant un match. C'est les matchs qui, les joueurs qui te font sonner le réveil. Et c'est une chose que la saison dernière.
En fait, nous a expliqué longuement ce que Zidane lui a mis dans le crâne, à savoir choisir les matchs, faire des croix sur certains et tout. Là, il a quand même fait une croix sur sa sélection pendant 6 mois, là.
Oui. C'est pas anodin, hein.
Oui.
Le gars a dit non, je viens pas jusqu'à nouvel ordre.
Non, mais c'est peut-être pas idiot.
Ça veut dire que tu te reposes, tu te changes des idées, tu fais un petit voyage au soleil, t'es tranquille, t'as des avantages, t'es voilà.
Bah, tu te gères.
Et tu te gères quoi. Bah oui.
Ce mec s'est offert ce luxe-là quand même. Hein.
Ouais. Mais alors, par contre, il n'a jamais fait de turnover à la Juve. Il joue tous
les matchs. Non, il a pas joué face à l'Atalanta les 26. Il était sur les bancs remplaçant les 26 décembre face à l'Atalanta. Après la Juve perdait 2-1, elle était réduite à 10.
Il a
marqué le but de l'égalisation. Ouais. Donc,
il y a une chose intéressante que tu disais, Simone, sur le. Il y a un apport considérable de Cristiano Ronaldo qu'on ne voit pas, mais que les gens à l'intérieur vous racontent, c'est qu'il est le meneur sur le terrain pendant les matchs, mais aux entraînements, les entraînements sont meilleurs quand il y a Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que c'est tellement un malade de travail que naturellement il est le leader aux entraînements aussi, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de se relâcher non plus dans un entraînement quand il y a Cristiano Ronaldo. Et cet effet, cette émulation, c'est le mot que je cherchais, que provoque, automatiquement ça a des effets hyper positifs sur l'ensemble du groupe, quoi. Même sur ceux qui ne jouent pas titulaire.
Après, il y a un effet encore plus positif que je mets dans l'ensemble du bonus Cristiano, c'est l'incroyable première partie de saison de Mandzukic, qui était libéré, on peut dire, des espaces.
Mandzukic, c'est un autre joueur, un autre homme.
Quand tu as trois défenseurs qui vont sous Cristiano, si tu es intelligent et tu sais.
Non, mais aujourd'hui, l'attaque Dybala, Mandzukic, Ronaldo,
Les trois dernières saisons, Mandzukic a marqué 13, 11 et 10 buts. Là, il est à 9 à moitié de la saison.
Bah, bien sûr.
Pour dire que les prix à payer, peut-être, c'est Dybala qui n'arrive pas encore.
Il joue bien, mais il marque pas. Voilà, il a mis 2 buts seulement. C'est peu.
Il a marqué 5 buts en Ligue des Champions.
Et deux en championnat.
Mais alors, pour avoir vu le match au stade, face à la Roma et face à la Sampdoria, les travaux qu'il fait Dybala, quand même, est impressionnant. Quand Allegri part des joueurs tout terrain, tu les vois partout. Il travaille comme un fou, il s'est mis au sacrifice, il s'est sacrifié pour l'équipe énormément, mais c'est vrai que t'as perdu un joueur qui devait être une des top, peut-être 5-10 au monde, il n'est pas encore
arrivé. Et dans la quête ultime de la Juve, franchement, si la Juve gagne la Ligue des Champions cette année, avec Ronaldo, dans la guéguerre que se livrent les deux, Ronaldo et Messi, pour le joueur de l'histoire et tout. Ronaldo qui change de club, qui va à la Juve, qui a pas gagné la Ligue des Champions depuis une vie, qui cherche à la gagner, et il la gagne l'année où ils arrivent.
Où il aura été, quoi.
Ronaldo a gagné la Ligue des Champions avec Manchester, déjà. Manchester, le Real et la Juve.
Là, il était en croissance, mais là, au moment où tu crois que c'est un peu fini, que à chaque fois qu'on croit qu'il est moins bien, hein, le mec il te cartonne tout, quoi. Ce type, j'adore me moquer de lui pour tout ce qui est autour du foot, hein, mais ce type me laisse sans voix. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, ce type.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour les entraîneurs, je mets un top Gasperini, parce que son travail avec l'Atalanta continue à être.
Et quand c'est ça qu'il bouge jamais, ça fait des années qu'il est là-bas, tout le monde dit qu'il est top et tout, et pourquoi on l'essaye pas ailleurs?
Parce qu'il veut quand même lui aussi avoir en tranquillité une possibilité de travailler qui peut-être ailleurs en Europe. Tu sais, il a été une des entraîneurs qui a été essayé à l'Inter dans les compliqués après Mourinho. Il est resté 4 matchs, donc, parce qu'il n'avait pas, comme dit, les physiques du rôle pour être entraîneur d'un grand club. Moi, je trouve qu'il mériterait vraiment beaucoup plus. Et l'Atalanta, aujourd'hui, est encore 6e. Il est en plein lutte pour l'Europe. Elle perd chaque année plein de joueurs dans les dernières saisons. Elle a perdu Cristante, Gagliardini, Kessié, Caldara, Conti, Spinazzola, tous sont partis pour la Juve, l'Inter, la Roma, et lui continue à faire sortir des très bons joueurs qui arrivent en sélection. Je trouve que le travail de Gasperini continue à être extraordinaire. Par contre, les flops, il est resté 4 matchs, mais je vais dire un petit mot sur Monsieur Ventura. J'arrive, je pars, à dire au revoir.
C'était quand même ça même arrivé.
Ça faisait longtemps, tiens.
Ça sert même à rien d'en parler du pauvre Lino.
Et après les pauvres Filippo Inzaghi qui à mon avis n'arrive pas vraiment à trouver une solution. Et en plus ce qu'on m'a dit c'est qu'à Bologne il est généralement quand les choses vont mal dans les équipes qui doivent lutter pour le maintien, t'as les vestiaires, si est solidaire avec l'entraîneur, cherche de donner quelque chose en plus. Bon, on me dit qu'à Bologna, c'est pas vraiment le cas, donc,
Mais si tu dis Bologna, soit tu dis Bologne ou Bologna. Bologna. Mais Bologna, je sais pas pourquoi tu le dis, t'as envie de le faire comme ça. Dis-le en français ou en italien, mais pas un mélange des deux.
T'as raison.
Les gars, je vais vous faire écouter un morceau d'interview qui va intéresser tout le monde et qui va peut-être faire du bruit en Angleterre, Julien. Mathias Pogba, le frère, l'un des frères de Florentin et de Paul.
Oui. Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit, c'est pas non plus inattendu. Hein.
Il était dans le vestiaire ce soir. Donc ça vient de se terminer là, et il a parlé de Mourinho. Donc Paul Pogba ne s'est jamais exprimé publiquement sur Mourinho. Nous sommes d'accord, Julien.
Faire sortir Simonet, il va pas pouvoir supporter
la réaction.
Alors,
il va pas supporter.
Je pense que quand Mathias parle de Mourinho, on peut considérer globalement que c'est l'avis de Paul. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord.
Oui.
Bon, écoutez ce que dit.
Je pense qu'en Angleterre, ça va être repris ça.
Écoutez ce que dit Mathias Pogba.
Vous connaissez la personne, Mourinho. Je connaissais pas, personne le connaît personnellement, mais de ce qu'on voit, il veut toujours être le maestro. Le patron. Mais
ça lui a fait un passement au cœur à Mourinho, quoi.
Le centre d'attention. Mais, Polo, lui, c'est...
Ça lui a fait mal, en fait.
Non, en fait, Polo, il calcule même pas cet aspect-là. Ouais. Tu le respectes, il va te respecter.
Ah, c'est déjà fini. Bon,
Non, il a dit le problème pour Paul, c'était Mourinho.
Voilà, il a dit.
C'est ça la vraie phrase.
Voilà, il a dit ça.
Oui.
Bon, c'est clair.
C'est plutôt clair.
Bon, on l'a pas entendu de sa bouche, hein, mais enfin, il l'a dit dans le vestiaire.
Il est un peu bidon, là.
Ouais,
ils ont pas eu le temps de faire les bonnes coupes.
C'est notre producteur Arthur Robert, je sais pas, il a deux mains à gauche.
Qu'est-ce que tu fais, Bobby? Tu peux chambrer mes chaussures bleues, Arthur Robert, quand tu feras ton boulot. Que tu couperas bien les extraits.
Bon, enfin, voilà. Donc, je sais pas, Julien, tu pourras relayer à tes collègues de Manchester.
Je vais relayer, tout à fait.
Voilà.
Mais le bon passage, hein, parce que là.
Il est sur le compte Twitter du vestiaire, hein, donc allez le voir. Deux, trois infos encore pour vous dire que l'Argentin Gerardo Martino dit Tata Martino, bah oui, est le nouveau sélectionneur du Mexique. Martino, ancien sélectionneur
bon
de l'Argentine,
quand même, hein,
qui a entraîné le Barça il y a quelques temps. Ouais, t'aimes bien Fred?
Ouais, il arrivait après Tito Villanova, tout ça, c'était pas évident pour lui, quoi. Voilà, donc c'est un entraîneur qui n'a pas été forcément jugé à sa juste valeur en Espagne, voilà.
Très bon en MLS, hein, avec Atlanta, là, ils ont gagné le titre cette année, c'était sa dernière saison avec Atlanta, et il a fait du très bon travail là-bas en MLS.
Et puis Brahim Diaz, t'en as pas parlé, Fred, donc c'est le nouveau joueur du Real, le jeune milieu de terrain là.
Espagnol qui a été formé depuis l'âge de 14 ans, hein, Julien à City,
il avait arraché à Malaga, 15 millions.
Voilà, il est très heureux d'être là. Bon, c'est vrai que vu tous les problèmes qu'il y a en attaque, puisqu'il y a plein de blessés, etc., c'est une recrue. Bon, c'est une recrue d'avenir, mais bon, c'est pas ce qui va compenser et rassasier les supporters
de
Real Madrid.
En tout cas, c'est un bon joueur. Il est devenu quoi, le gamin norvégien, là?
Ah, il joue en Hollande.
Il est très bon. Il est très très bon.
Comment il s'appelle?
C'est vrai.
Odegaard.
Il est très bon avec lui, qui avait déjà la grosse tête et tout. Là, ça va, il s'est.
Il était dans le Castilla de Zidane.
Ouais.
Et il refusait de s'entraîner avec les types de son âge. Il dit non, c'est marqué dans mon contrat que je m'entraîne avec l'équipe première. Donc, il s'entraînait avec l'équipe première en semaine et le samedi, il allait jouer avec les gamins, enfin avec les joueurs de troisième division, mais qui lui passaient pas le ballon parce qu'il voulait pas s'entraîner avec lui. Donc.
Et là, tu dis Julien au Pays-Bas. Il s'est remis la tête à l'endroit.
Ouais, il est à vitesse, il fait une super saison. C'est un des meilleurs milieux de terrain offensif du championnat néerlandais.
Donc c'est pas mort pour lui, il peut encore.
Non, percer. Il a que 20 ans. Il a eu 20 ans.
Je sais qu'il est très jeune, mais comme il a démarré avec la tête un peu de travers, des fois on se perd.
Et puis on va conclure en concluant sur le débat de début de Drôle de l'âme. J'ai eu Céline qui le dit sur votre débat gastronomie. Je confirme, 80% des kebabs que l'on mange en France ne le sont pas.
Non, 80% des kebabs qu'on mange en France ne sont pas populaires.
pas de la viande.
Sont forcément, pour la plupart du temps, mauvais.
Et puis Jonathan voulait rendre un hommage à Nico Villas, absent ce soir. Il lui donnait de multiples à Villas, il va la tuner, tu vas voir si elle est pas belle, Gilbert. Excellente idée. Je rappelle qu'on a lancé ce soir l'After Academy, hein, donc n'hésitez pas, vous allez sur rmc.fr, vous retrouvez toutes les infos pour envoyer votre vidéo. L'offre est très simple, vous avez jusqu'au 20 janvier pour envoyer vos vidéos. 7 d'entre vous seront sélectionnés, les meilleurs bien sûr, pour intégrer la bande de l'After et être peut-être le lundi, on verra, on choisira les jours avec vous, avec nous donc dans l'After tous les soirs sur RMC, sur RMC Sport News. Prenez le temps, vous avez jusqu'au 20 janvier, ne vous précipitez pas, faites-nous ça comme il faut, des belles petites vidéos et on sélectionnera tout ça tous ensemble. Demain l'After sera là dès la fin du match de Coupe de la Ligue entre Lyon et Strasbourg, le premier des quarts de finale. Simone, merci.
Buonasera.
Fred, merci.
Adios.
Julien, merci.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée les gars. Paul à plus. On se retrouve Paul. Pourquoi je t'appelais Paul? Paul Pogba, bien sûr. Bien sûr. Avec tes chaussures bleues, t'as fait un tabac. Hein. Le sondage est totalement à ton avantage.
Ouais, fini. Ouais, c'est vrai, ça tourne quand même. Bon. Allez voter.
Là. Chapeau l'artiste. Et puis demain soir, on sera là, bien sûr, dans l'After. Bonne nuit à tous.
Ciao, monsieur.